c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Chute, on écoute la télé avec Mazagran Immobilier. La Maz Team vous propose toute transaction immobilière pour particuliers et professionnels et une connaissance parfaite de son secteur. Mazagran Immobilier, c'est 4 agences sur les 2 Charentes à votre service. Angoulême, Barbezieux, Villebois-Lavalette, Saint-Genis-de-Saint-Onge et sur mazagran-immobilier.com.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude. J'ai le plaisir de vous accompagner pendant une heure, pendant votre déjeuner, entre 13h et 14h. On va passer en revue ensemble l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, sans plus tarder, voici tout de suite le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé dans un instant. On va consacrer une partie de cette émission à la sortie du film Le Torrent d'Anne Leni qui sera avec nous dans une poignée de secondes avec également José Garcia. Nous aurons également le plaisir de dérouler ensemble nos coups de cœur télé de cette semaine consacrés à Andy Cops qui débarque sur la plateforme de France.tv avec Alex Philippe, son créateur, qui sera donc avec nous en invité. On aura le plaisir de recevoir également Odile Huillemin à l'occasion de la diffusion du final de L'Homme de nos vies. C'est le retour également d'Élodie dans Ici tout commence. Sarah Cheyenne Santoni sera également notre invitée exceptionnelle pour en parler. On parlera également de la mise en ligne de la série pour France.tv La fille au cœur de cochon. Et en fin d'émission, cap sur le festival du film de société de Royan avec Guillaume Mousset, son directeur, et Nicolas Cuche, le président du jury qui va officier tout au long de cette semaine du côté de Royan.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film Le Torrent, le nouveau film d'Anne Leni qui est avec nous aujourd'hui, notre invitée. Bonjour Anne.
Bonjour.
Scénariste et réalisatrice du film et l'acteur principal du film qui est avec nous, José Garcia. Bonjour mon cher José.
Comment allez-vous?
Ouais, ça va super bien, je suis toujours heureux de t'avoir dans Chut, on écoute la télé. T'es presque un sociétaire de la maison, hein, franchement.
J'ai l'impression, ouais, j'ai l'impression maintenant. Ouais.
À chaque film t'es là et puis alors quel bonheur de pouvoir justement te voir dans des choses tellement différentes à travers les rôles que tu peux nous proposer et là on est dans quelque chose d'un petit peu plus noir, effectivement, et un rôle dont on va parler évidemment dans quelques instants. Mais d'abord, Anne, j'aimerais savoir la genèse un peu du projet. Comment est venue l'idée justement de ce film Le Torrent avant de parler du synopsis?
Ah, moi, il y a toujours plusieurs choses. J'ai malheureusement pas une idée géniale. C'est un truc que je vois là, une affaire dont j'entends parler, un chalet que je vois emporté par un glissement de terrain dans la montagne. Et puis, au bout d'un moment, j'ai plein de fils comme ça et je commence mon tricot.
Et du coup, ça se tricote comme ça, cette histoire, puisque José, tu incarnes un personnage qui accueille sa fille pour le week-end et donc s'en va au théâtre. Et pendant ce temps-là, elle va découvrir le pot aux roses, c'est que sa femme le trompe, enfin sa femme actuelle, puisque c'est pas sa mère. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Et à cause de ça, une dispute va éclater et un accident va survenir et ton personnage va se retrouver dans une escalade un petit peu de... Alors pas de mensonges, mais voilà, ta femme va disparaître et tu vas te retrouver dans une escalade de mensonges, de cacher des vérités. Éclatera-t-elle au grand jour? C'est ce qu'on va découvrir tout au long du film.
Absolument, c'est très bien résumé. C'est une version intéressante de voir comment au sein même d'une famille, on peut donner son amour de manière inconditionnelle ou pas. Et qu'est-ce que ça fait de donner son amour inconditionnel à son père, à sa fille, à, voilà. Et comment tout ça se traite, c'est-à-dire que quand il y en a un qui a un problème, est-ce que l'autre doit absolument l'aider, quitte à plonger toute la famille dans les méandres de la douleur et des problèmes ou pas. Et voilà, donc c'est très bien orchestré parce que en fait, personne n'est vraiment nickel là-dedans et tout le monde essaie de se dépatouiller et André Dussolier vient pour me contrer d'une certaine manière. Voilà, c'est je sais pas si je suis
en train de me...
Il en a pas trop dit, Anne, ça va?
C'est tout à l'heure, j'ai merdé complet. En fait, tout à l'heure, j'étais là comme ça et au milieu de ma phrase, j'étais parti mais alors avec un moment romanesque et j'ai balancé la fin du film en plein milieu.
Et donc, t'as fait ça chez les confrères, mais elle te surveille pour là, tu vois.
Ouais, voilà. Ouais. Très bien. C'est ça. Elle m'a à l'œil.
Bon, Anne, José, ça a été une évidence tout de suite pour ce rôle, justement.
Oui, parce que ça faisait longtemps que je l'avais dans le collimateur. Je lui avais déjà proposé un rôle il y a quelques années, qu'il avait décliné, mais très gentiment. Et donc je m'étais dit, il y a une ouverture. En fait, j'ai compris depuis, il est juste gentil avec tout le monde. C'est juste un homme gentil. Mais ça m'a entretenu dans l'illusion que je pouvais y retourner. Et donc j'y suis retournée là parce que je voulais aussi quelqu'un qui, comme José, vienne plutôt de la comédie et un très fort potentiel de sympathie et d'empathie du public. Ce qui fait que quand il commence à passer un petit peu dans le gris, qu'on le suive assez longtemps avant de se dire, aurait-il vraiment dû faire ça ?
En tout cas, moi je voudrais qu'on salue le talent de la jeune actrice Capucine Valmery. Vous avez peut-être vu dans Les Bracelets Rouges ou dans d'autres fictions également. Elle est extraordinaire. Elle joue le rôle de Lison, ta fille que tu vas faire grandir un peu trop vite, hein, on peut dire ça comme ça.
Ouais, pas la façon la plus élégante du monde, mais en fait c'est ma fille que j'ai avec ma première femme. Et là, bah ça y est, en fait on a l'impression qu'en fait elle a été mise un tout petit peu de côté. Elle a du mal, en tout cas elle cherche l'amour de son père, et elle vient un week-end sur deux quoi, mais elle a pas vraiment sa chambre à la maison, enfin bref. Et j'ai un petit garçon avec une nouvelle femme, et ce petit garçon c'est un enfant roi. Voilà, on sent que la réussite est là et que elle représente un peu un peu la défaite d'avant quoi. Donc elle a beaucoup de mal à s'intégrer là-dedans, elle souffre un peu de tout ça, et en fait à un moment justement au moment où il y a la disparition de cette nouvelle épouse, j'ai besoin d'elle pour sauver un peu ma mise,
et un peu les apparences.
Ouais, un peu les apparences, et je l'utilise un peu, ouais, je l'utilise même beaucoup. Et c'est ce rapport d'utilisation justement de ma fille qui est très intéressant par rapport au rapport père-fille, et aussi André Dusselier qui arrive, qui lui est son grand-père et qui
non, il est son grand-père de séparation, il aurait pu être son grand-père.
Oui, c'est ça. Ah oui, non, c'est vrai, c'est pas son grand-père. Non, je croyais que j'étais en train de me balancer, j'ai cru que j'avais bouffé une bouffe. Et en plus, je suis du côté où il y a la bague, et là, vraiment, ça m'a embêté de le prendre en pleine bouche. J'ai fait dire quoi, qu'est-ce qu'il y a encore?
Parce qu'André Dusselier, pour remettre les choses en contexte, c'est le père de ta nouvelle femme. Voilà. Qui est donc pas le père de Lison.
Voilà.
Qui est donc pas la mère de Lison, pardon.
Non, mais j'étais à deux doigts d'en prendre une, là. Voilà, je me tais, là, maintenant. Écoutez,
Bon, Anne, elle est quasiment de tous les plans. Comment on fait pour trouver une comédienne pareille? Parce qu'une jeune comédienne pareille, avec autant de talent, elle est quasiment sur tous les plans, elle porte le film.
Oui, elle est au centre. Alors évidemment, il y a la présence très très forte de José et d'André, mais c'est vu de son point de vue. Et c'est vraiment dans son regard aussi que ces hommes vont changer. Le personnage de José en tombant un peu de sa toute puissance, et le personnage d'André en se disant que la vérité, il est peut-être derrière les yeux de cette jeune fille, que peut-être elle sait ce qui est arrivé à sa fille disparue.
Alors il y a plein de choses dans ce film, les décors sont aussi un personnage à part entière, on va en parler de tout ça. Mais juste avant, on va écouter la bande-annonce, Le Torrent, c'est mercredi au cinéma, on écoute.
Elle est où, maman?
Elle est pas là. On s'est disputé hier soir, alors elle est sortie.
Il y a eu des inondations cette nuit.
Vous êtes bien sur le répondeur de Juliette Boiron, mais je peux pas vous répondre pour le moment.
Les parents de la disparue sont arrivés.
Vous croyez qu'on peut participer aux recherches? On va pas rester là à attendre sans rien faire.
Bonjour mademoiselle, capitaine Da Silva. Juliette Boiron et votre belle-mère, c'est ça? Vous avez entendu cette dispute?
Le Torrent, c'est notre spécial. Anne Lenny et José Garcia sont avec nous pour en parler justement aujourd'hui. Ce film sort mercredi dans les salles. Alors il y a un personnage qui m'a marqué moi aussi dans ce film, c'est les décors, c'est les Vosges, les montagnes magnifiques. Les décors sont superbes.
Les décors sont superbes. Il fallait que l'histoire se déroule à la montagne. Le scénario le demandait, mais en allant dans plusieurs régions, en découvrant les Vosges, j'ai eu le bonheur de découvrir des paysages que j'avais pratiquement pas vus à l'écran. Et ça, c'était formidable. Et c'est aussi une région qui, le temps est très changeant là-bas. Et suivant les moments, c'est très angoissant, c'est très plombé. Et à d'autres moments, c'est étincelant de soleil, de neige. Et c'est vraiment les éléments, le torrent, la force de la nature, elle influe très fortement, évidemment, sur le récit de ce film.
Est-ce qu'il y a un souvenir particulier, José, sur ce tournage?
Il y en a beaucoup. D'abord, on a eu la chance et en même temps, mais en tout cas la chance, oui, de pouvoir tourner pendant le deuxième confinement. C'est vrai que c'est toujours des tournages dont on se souviendra toujours, quoi, parce qu'on avait la chance de pouvoir travailler. En même temps, il y avait cette espèce d'épée Damoclès tous les jours. On savait pas si on allait pouvoir continuer le film parce qu'il suffit qu'il y ait deux personnes ou trois qui soient touchées, on est foutu. Troisièmement, la nature avait repris ses droits, donc c'est vrai que tourner à Gérardmer et de voir tout d'un coup des biches, des animaux sortir de partout, c'était quand même absolument hallucinant. Et puis troisièmement, C'est vrai que l'isolement dans lequel on était, puisqu'on avait, on a des consignes très strictes, a sans doute participé aussi à la qualité de l'émotion dans laquelle, voilà, surtout pour Capucine, la pauvre, qui elle, jeune actrice, s'est retrouvée tous les soirs enfermée dans sa chambre à manger son plateau de foyer machin de machin. On pouvait pas rentrer à Paris, évidemment. Il est hors de question de bouger, de voyager. Donc voilà, nous, ça va, on est un petit peu plus aguerris et voilà.
Anne, devant, derrière la caméra, les deux en même temps, puisque vous jouez aussi l'enquêtrice, qui va tenter de faire la lumière un peu sur ce qui s'est passé. Alors c'est moi, j'ai trouvé super que le spectateur soit plongé dès le départ sur la vérité et qu'on voit comment effectivement le personnage va faire pour s'en sortir. Comment vous avez fait pour arriver à être devant, derrière la caméra et jouer comme ça ?
Eh bien, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, toutes les partitions très émotionnelles où il faut un peu sortir ses tripes et faire des choses très difficiles à jouer, je les ai refilées à mes petits camarades. Faire le rôle de l'enquêtrice, on est derrière, on est caché derrière sa fonction, c'est moins lourd.
Garde une distance.
Oui, et du coup, je pourrais pas faire plus que ça parce que moi j'ai besoin quand même que mes acteurs sentent que je suis avant tout en train de les regarder. Et faire l'enquêtrice qui les observe, c'était pas mal pour ça.
Est-ce que vous avez un souvenir, vous, particulier à nous raconter, justement, en tant que réalisatrice sur le film ?
J'en ai beaucoup, mais c'est vrai que quand on a tourné la nuit de l'accident, voilà, à 5 heures du matin, avec la tyrolienne pour descendre au fond du ravin, la pluie, une des nuits les plus froides, et ben d'avoir José qui, alors qu'on a déjà fait 2 heures sup et que c'est une scène difficile à tourner, vous faites genre un peu, on est content d'être là, hein, et on pourrait y passer encore toute une nuit, etc., et qui emmène l'équipe, et ben c'était incroyablement précieux.
Alors, la question que tout le monde va se poser en voyant le film, c'est ma dernière question. Combien le chien a mangé de crêpes ?
Pas autant qu'on aurait voulu. Je vous jure, c'était un chien de gendarme très bien élevé et qui refusait absolument de monter sur un lit et de manger des crêpes auxquelles il n'avait pas le droit. Ça a été très difficile de corrompre ce chien.
Bon, vous verrez de quoi on parle, en tout cas en allant voir Le Torrent mercredi au cinéma, n'est-ce pas José ?
Oui, avec plaisir. Et puis le chien, on a réussi vraiment à le tordre. C'est maintenant le gendarme qui a des problèmes. Le chien, il bouffe des crêpes n'importe où, il vient, il bouffe des chaussures, il s'amuse, hein, je veux dire.
Il est bien éduqué sur ce temps de la joie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci Anne, merci José. Le Torrent, c'est mercredi dans les salles. On va se requitter avec un petit extrait et je vous dis à très bientôt.
Vous pouvez me dire ce que vous faisiez dehors à cette heure-là ?
Il y avait quoi dans le sac poubelle ?
Disons, si tu sais quelque chose, il faut que tu le dises.
Ça va te pourrir la vie. Il n'aurait pas dû te laisser faire ça.
Tout le monde me ment. Tout le monde se sert de moi.
Ça fait du bien de te consoler. Je t'ai foutu.
J'aurais jamais dû te mêler à ça.
La vérité, c'est mieux pour tout le monde, tu verras.
Allez, ne bougez pas, on revient avec la suite de Chute, on écoute de la télé dans un instant avec Odile Wilma, Alex, Philippe, Sarah Cheyenne et bien d'autres encore. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. On écoute la télé, le talk show radio. Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, aujourd'hui, notre invité est Alex Philippe. Vous le connaissez tous, évidemment, pour Vestiaire, aux côtés d'Ada Abdelli et Anaïs Fabre et toute l'équipe. Bonjour Alex, merci d'être là.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais écoute, on va parler avec toi parce que souvent on met le handicap justement à l'honneur avec toi, avec Vestiaire. Et là, c'est Handicops que l'on va eh bien vous présenter puisque c'est une fiction courte qui va être mise sur France.tv, la plateforme de France Télévisions, où on va mettre effectivement cette nouvelle série à l'honneur, 8 épisodes de 4 minutes. Mais c'est Handicops, raconte-nous.
Alors Handicops, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'une brigade de police composée exclusivement d'agents en situation de handicap. Donc c'est un format de comédie, puisqu'on est sur le format court, voilà, 4 minutes. Donc on est à la fois sur la tradition du format court, c'est-à-dire qu'on est sur une série bavarde, comédie de situation et compagnie, mais en plus moi j'ai voulu aller un tout petit peu plus loin dans le format, c'est-à-dire que je dirais pas qu'on est dans du feuilletonnant, parce que pour l'instant on n'a que 8 épisodes et qu'on essaye, mais on a quand même envie qu'il y ait un fil conducteur, ce qui existe là sur la série, notamment sur le personnage qui est incarné par Nicole Ferroni, qui tourne avec nous dans la série. Mais c'est surtout que moi j'ai eu envie d'offrir, c'est pour ça que j'ai choisi le le cop show en fait, c'est que c'est des gens très populaires du genre policier, et c'est des rôles qu'on offre jamais aux acteurs en situation de handicap. Et moi, j'ai eu envie de prendre le sujet à bras le corps et justement de faire ça. Et donc le petit défi de la série, c'est que au-delà de faire que de la comédie, on fait aussi un peu d'action. On a des courses poursuites en fauteuil roulant, on a des fusillades avec des agents qui ont des petites mains et qui tiennent mal leur pistolet. On a essayé de mettre en place des choses comme ça où en fait on va se rendre compte que le handicap peut même être générateur d'idées de mise en scène et d'idées de séquences d'action. C'était un des défis du projet.
C'est ça qui est génial pour le coup. Il y a que France.tv, on aura la chance peut-être de le voir par la suite sur France 2 ou France 3, puisque dans la case de Vestiaire, c'est pile poil en plus le même format quasiment.
Alors c'est le même format que Vestiaire, mais en fait le sujet il est presque, c'est presque une réponse par rapport à Vestiaire quand j'ai imaginé ce projet, parce que Vestiaire, moi je suis tellement heureux de faire ce projet. Quand on a commencé à le faire il y a 12 ans maintenant, Vestiaire, c'était absolument incroyable, ça n'existait pas, et d'ailleurs c'était toujours très inédit, et Vestiaire raconte effectivement le quotidien des gens en situation de handicap. Et moi je me suis dit, c'est pour ça que j'ai fait Handicops, donc un univers très fictionnel, c'est que j'ai voulu aller plus loin, de me dire le quotidien on l'a déjà fait, donc si c'est pour raconter un quotidien d'autres gens qui font du handicap, c'est pour raconter le handicap à la piscine, le handicap au supermarché ou je sais pas quoi, ça m'intéresse pas, je préfère vraiment, d'où le côté très fictionnel du cop show.
Mais en fait, c'est la relève en fait.
C'est un peu la relève, en tout cas c'est pour moi c'est l'étape, la nouvelle étape vers laquelle j'aimerais qu'on aille pour banaliser encore plus le handicap, pour se rendre compte que des acteurs avec des handicaps et des actrices, il y en a plein, parce que je peux vous dire que j'ai fait un grand casting national, j'ai vu plus d'une quarantaine d'actrices et d'acteurs, j'ai trouvé des chants fabuleux, j'ai des anciens de Vestiaire, j'ai Philippe Sivi par exemple, j'ai Aude Goni-Goubert qui fait une apparition dans la série, j'ai donc Nicole Ferroni comme je vous disais, et puis je suis allé chercher des nouveaux talents qui sont tous des comédiennes et des comédiens qui sont de formation professionnelle, mais qui n'ont pas forcément la chance d'avoir une exposition, et là tout d'un coup ils sont venus, ils ont passé les essais, en fait on a fait comme tout le monde, et comme dans n'importe quel casting, on prend le comédien ou la comédienne qui correspond le plus au rôle, quoi. Et moi je trouve que c'est ça aussi l'étape supplémentaire, c'est d'arriver à se dire mais on va donner la même chance à tout le monde, et voilà, et j'ai vraiment eu envie de mettre ça en avant, quoi.
Comment t'as eu l'idée de faire Handicops? Ça date de quand et l'idée germe depuis combien de temps?
L'idée germe depuis un petit moment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc la commande vient de France 3, Centre-Val de Loire, qui ont eu envie de créer un projet comédie sur l'inclusion des personnes en situation de handicap. Donc spontanément, ils sont venus vers moi, étant moi-même un ancien tourangeau, et je suis venu avec plusieurs histoires. J'avais trois pitchs. Mais c'est vrai que le pitch d'Handicops, c'est un pitch que je réfléchissais depuis très longtemps, parce qu'en fait justement c'est ce questionnement que j'avais depuis un certain temps sur voilà, où est-ce qu'on pourrait aller plus loin maintenant qu'on a fait Vestiaire, et c'est pour ça que je m'étais dit faisons ça, prenons un genre que tout le monde adore, les flics, que tout le monde connaît par cœur dans la fiction, amusons-nous avec ces codes, transformons-les un peu ce qu'on a déjà vu dans K1, quoi, sauf que là en plus je rajoute le côté qu'on fait de la comédie et que du coup on met la petite étape supplémentaire. Donc moi je me revendique avec vraiment beaucoup de modestie, mais d'un ton l'arme fatale, des choses comme ça, on est dans du policier avec des éléments de comédie et des éléments d'action, parce que c'est ce que j'ai cherché à faire. Et donc le projet est vraiment né comme ça au fur et à mesure de mes réflexions, et quand on m'a offert l'opportunité de faire un projet là-dessus, je me suis dit c'est cette idée-là qu'il faut que je raconte. Donc c'est vrai que j'ai pitché ce projet un peu plus que les deux autres que j'avais proposés, et c'est celui qui a été retenu, parce que quand je raconte le projet, tout le monde me dit mais c'est une idée qui est tellement évidente qu'on comprend pas qu'on ait pas eu l'idée plus tôt, quoi. Et ça me rassure, parce que je me dis c'est cool, ça veut dire que quelque part ça veut dire qu'il y avait une attente. Donc maintenant il faut être à la hauteur de l'attente, j'espère.
France.tv pour découvrir Handicops, les 8 premiers épisodes qui en appelleront, j'espère en tout cas pour toi, d'autres, et ou peut-être une deuxième saison, ou pour pourquoi pas une exposition aussi beaucoup plus forte sur France 2 ou France 3 en alternance avec Vestiaire, ça pourrait être vachement sympa. En tout cas, c'est tout ce qu'on t'espère, mon cher Alex.
Eh ben merci beaucoup. Vous pourrez découvrir la série sur France.tv à partir du mois de novembre.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Ici Tout Commence, votre série quotidienne à 18h30 que vous pouvez suivre même pendant ce mondial. Et quel bonheur de voir les aventures des élèves de l'Institut continuer, en tout cas pendant ce mois. Et un retour inattendu depuis maintenant un petit peu plus d'une semaine, celui d'Élodie, à travers bien sûr le personnage joué par Sarah Cheyenne qui est avec nous en ligne. Bonjour Sarah.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Mais dis donc, mais quelle surprise de voir revenir Élodie depuis maintenant un petit peu plus de 8 jours.
Ouais, c'est une surprise partagée, parce que même moi, je m'attendais pas à ce qu'on me rappelle. Donc, je suis très contente de retrouver, le château, les collègues, le rythme. Et puis, maintenant, depuis un peu plus d'une semaine, le public décide de comment. Donc, c'est très, très chouette.
Alors, Élodie a marqué, évidemment, au fer rouge, son empreinte au château, dès le début de la série, au tout début. Et puis après, s'en est allée, direction Lille, pour
exactement
aller rejoindre la chef Cardone. Et puis, du coup, fait son retour après l'incendie, qui a, évidemment, décimé l'Institut Cardone. Et donc elle vient trouver refuge à l'Institut Auguste Armand. Et donc évidemment elle va y retrouver des anciens élèves qu'elle connaît bien. C'est une Élodie apaisée qu'on retrouve, qui est moins dans la rancœur du départ qu'elle a vécu et des choses qu'elle a vécues à l'Institut. Hein.
Exactement, ouais, on est sur une Élodie qui s'est pardonnée, qui a pardonné et qui n'est plus du tout en effet sur la colère ou sur la défensive. C'est un personnage du coup qui est beaucoup plus apaisé. Et là où je trouve ça vraiment très intéressant, c'est que tout ce travail-là a été fait avec l'équipe HMC. Donc on a travaillé sur les vêtements, on a travaillé sur la coiffure, sur un maquillage. Et même avec Pascal Barrault, donc le coach de jeu de la série, on est allé sur un jeu beaucoup plus apaisé, sans tomber dans la psy, sans tomber dans la coach de vie, mais plus en étant voilà sur un côté... d'une jeune fille voilà qui accepte ce qu'elle a fait dans le passé. Donc elle a quand même blessé Iniesta, elle a quand même fait des coups bas avec Louis.
Faut dire qu'il a un peu cherché Louis aussi quand même, hein.
Louis, il sait bien manipuler les gens. Et encore, moi j'arrive à me persuader que Louis n'est pas qu'un manipulateur. Mais d'ailleurs Louis, elle le retrouve aussi dans son retour, elle vient passer les examens qu'elle ne peut pas passer donc dans son école, elle vient avec donc Brice, son copain, et un autre élève, Jude, qui un peu plus sur la réserve. Et en fait, elle va aussi également retrouver Louis là, dans les prochains épisodes de cette semaine. On a vu une Élodie qui a retrouvé Elliot et Hortense. Et on a également une Élodie qui retrouve son premier amour de l'Institut.
Après plusieurs mois d'absence, quand on retrouve un personnage comme ça, est-ce que c'est comme si on l'avait jamais quitté, en quelque sorte? Est-ce qu'on retrouve tout de suite un peu les automatismes?
Ouais, complètement. Bah, surtout que c'est un rôle qui, pour moi, m'est très cher. C'est un rôle de composition, c'est un rôle sur lequel j'ai quand même beaucoup travaillé. C'est un rôle qui m'a pris beaucoup de temps, un an de vie. Donc du coup, c'est un rôle que, comment dire, dès que je mets le tablier, il est là, quoi. Donc je pense que ouais, j'étais super contente de retrouver le personnage. Et même j'avais l'impression que rien n'avait changé quand je suis retournée au château. Il y avait des membres de l'équipe qui étaient alors, ce n'est pas qu'ils sont encore là, mais qui étaient aussi de passage quand moi j'y étais. Donc du coup, retrouver les mêmes personnes avec qui j'ai tourné il y a un an, ça fait vraiment extrêmement plaisir.
Et les nouveaux élèves aussi, que tu as pu retrouver, ceux qui ont fait leur entrée.
Bah c'est ça, et puis du coup c'était très drôle, j'avais l'impression d'être... Moi j'étais à la fac, donc du coup j'ai un peu fait ce qu'on appelle les week-ends d'intérêt. Mais là, j'avais vraiment l'impression d'être moi une sorte de tutrice et d'accompagner les deux nouveaux donc de la série, mais aussi de nouveaux comédiens qui découvraient ce que c'est le tournage d'une série quotidienne. Et du coup, je les ai guidés, je leur ai fait visiter le château, je leur ai présenté l'équipe, je leur ai présenté des comédiens et des comédiennes avec qui moi je suis très proche, comme Axel Daudier et Florence Cox. Et donc du coup, j'avais un peu l'impression d'être l'intermédiaire entre les nouveaux et les anciens entre guillemets. Mais du coup, voilà, j'avais l'impression de faire le relais entre l'école et les nouveaux, et c'est vraiment ce que m'avait demandé Sarah apparemment. Elle m'a dit en fait justement on fait venir Élodie pour qu'elle fasse cette espèce de lien en fait entre l'école de Lille et
cette passerelle.
Et cette passerelle exactement, ce petit relais, et du coup c'est complètement ce qui s'est passé dans la vraie vie. C'est que du coup avec les garçons on a été très proches tous les trois, on a passé super moments tous les trois, et moi en même temps je leur ai présenté l'univers du château, quoi.
Du coup, on peut imaginer que Élodie fasse des retours épisodiques comme ça de temps en temps.
J'en ai aucune idée. Honnêtement, moi, ça m'a pas déplu de revenir pour la deuxième fois. Après, je sais pas ce que je fais dans une semaine, je sais pas ce que je fais dans deux semaines, je sais pas ce que je fais dans un mois.
Tu sais ce que tu fais dans une semaine, parce que attends, ça c'est tandem, oui, on va en parler juste après, mais oui, tu reprends tandem aussi.
Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, je sais pas trop quand on est comédien et comédienne, on ne sait pas trop ce que l'avenir va nous réserver, ce que les castings nous réservent. Donc là, j'attends des réponses. Moi, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je retrouve le personnage d'Élodie. Ouais. Enfin, j'en ai fait déjà deux fois. Après, voilà, je ne sais pas si Élodie va vraiment revenir un jour, si elle reviendra. J'en ai aucune idée, et c'est vrai que ça a la bonne surprise à chaque fois.
Bon, on verra. En tout cas, la saison 6 de Tandem, tu y étais très peu, parce qu'évidemment, tu étais beaucoup sur le tournage d'Ici tout commence, mais du coup, tu fais un retour fracassant aux côtés de Titouan, de Astrid, de Stéphane, dans cette saison 7 de Tandem, qu'on verra en 2023. Exactement. Sur France 3, évidemment, pour cette ultime saison de Tandem qui nous attend.
Exactement. Bah, l'ultime, on ne sait pas encore, mais c'est vrai que 7, c'est un joli chiffre. Wow, quand je réalise que ça fait 7 ans,
Tandem, déjà.
Je suis choquée. surtout que je vois l'évolution du personnage et je me vois moi comment j'ai tellement changé physiquement. Puis entre temps, enfin, après le tournage de Tandem, il y a des autres expériences qui se sont proposées. Donc c'est vrai que je vois un changement, et même pour tout le monde. Et du coup, ben voilà, ça y est, on reprend le tournage de Tandem. J'ai très hâte de retrouver mon papa et ma maman de fiction et d'avoir Astrid et Stéphane. J'ai retrouvé Titouan et même d'autres personnages et des nouveaux.
Eh ben écoute, tu pars tourner en tout cas les 4 derniers épisodes de la saison 7 qui nous seront programmés évidemment je pense vers le printemps a priori si c'est comme d'habitude. Ouais, et puis Sarah, ouais. Eh ben on va te souhaiter plein de belles choses, tu sais, tu reviens quand tu veux, la porte est ouverte.
Ah ben oui, mais tu sais Alain, moi j'ai une énorme affection pour toi parce que tu es ma toute première interview.
Ben oui.
Quand j'avais tourné dans la tête des gens et puis on s'est retrouvés sur les différents projets, tu me suis depuis le début. Donc c'est toujours un bonheur d'échanger avec toi et surtout de te voir et de t'entendre toujours autant passionné par ce qu'on fait. Ça fait chaud au cœur, vraiment.
Merci beaucoup ma Sarah. Je t'embrasse très fort et puis je te dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.
Oui, avec grand plaisir, je reviendrai vous raconter mes aventures.
Et en attendant, on retrouve Sarah dans le rôle d'Élodie dans Ici Tout Commence tous les soirs du lundi au vendredi à 18h30 dans Ici Tout Commence et bientôt dans la saison 7 de Tandem. À très vite.
Chef, je peux checker le dressage? Bien ou bien?
Bien.
Et donc après, le bouillon sera servi directement à l'assiette en salle.
Ouais, il est où?
Je le réserve au chaud. Attends, c'est bizarre.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a?
Je sais pas, mais sans.
C'est quoi ça?
De la noix? Putain, c'est de l'huile de noix, y en a une tonne!
Notre coup de cœur télé consacré à l'homme de nos vies, c'est la suite que vous allez pouvoir découvrir sur M6 après les 2 premiers épisodes la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez les revoir sur Sisplay ou sur Salto d'ailleurs, n'hésitez pas. Et cette semaine, eh bien, on va accueillir Odile Villemain qui est avec nous. Bonjour Odile.
Bonjour.
Alors vous avez peut-être vu les 2 premiers, vous déjà, chers auditeurs. Et le personnage d'Odile est quand même celui qui met le feu aux poudres, qui attaque, hein. Carrément, hein.
C'est un personnage énervé.
C'est un petit peu ça. C'est celle, effectivement, qui va se faire arnaquer, qui va pas du tout bien le prendre. Ouais. Et vraiment, on souhaite pas au serial lover de tomber sur une comme ça. Ou du moins, peut-être si. Parce que c'est vraiment elle qui va tout faire pour essayer de le faire tomber et prévenir les copines. En gros, et ça, c'est bien.
Oui, c'est, voilà, tout est dit. Je sais plus quoi rajouter, moi, maintenant. Mais, c'est vrai que c'est la copine énervée, c'est la femme énervée qui devient copine, plus exactement. Qui a pas envie que ça se reproduise pour d'autres. Qui est partie peut-être pas pour les bonnes raisons en guérilla, mais je pense que c'était aussi par rapport à sa sœur, par rapport à sa famille, l'hôtel, etc. Et je pense que c'est autant une fuite plutôt une fuite en avant, enfin on sait pas trop, et qui va trouver sur la route des partenaires de galère, et qui va probablement se renforcer dans cette idée que il est hors de question que en plus ça arrive à d'autres, et que voilà, moi ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'elle est très vénère, elle est vraiment très très vénère, et c'est chouette de pouvoir jurer sans se faire engueuler par le réalisateur.
Et puis, t'as vu en premier, en disant scénario, t'as dit là, je vais pouvoir sortir plein de gros mots.
Non, j'aimais ce côté énervé, ce côté de tête brûlée, c'est très, pas à l'opposé, mais c'est très différent, en tout cas, de ce dans quoi on a l'habitude de me voir. Il y a un côté très comédie, moi, qui me plaisait, dont j'ai envie depuis longtemps, donc que j'ai pu, distiller là. Et puis, il y a cette espèce de, voilà, encore une fois, ce côté tête brûlée qu'on a travaillé dans le look, dans la coiffure, les vêtements, c'est une espèce de motarde qui roule dans un kangou, mais
moi ce que j'aime avec ton personnage c'est qu'elle ose tout, c'est-à-dire elle va aller jusqu'à essayer de le cambrioler en pleine nuit, et c'est pour essayer de trouver des indices qui puissent faire tomber, parce qu'évidemment au départ les copines la croient pas, personne la croit parce que c'est tellement gros. Donc pour ceux qui ont raté les 2 premiers épisodes, en fait tu tiens un hôtel avec ta sœur, et là en fait ils te volent toutes tes économies en utilisant ton portable pendant que t'es sous la douche, enfin c'est le truc est bien ficelé, c'est moche, et donc là tu pars en fait en conquête. Quoi.
Ouais, elle est en mission, en ouais. Guérilla ou en mission, je sais pas trop, mais c'est un truc, c'est d'ordre vital en fait. Mais je pense que ses motivations sont plus profondes que ça, et que ça, c'est un déclencheur qui fait que, voilà, puis c'est peut-être aussi une fuite par rapport à sa sœur et sa situation. Elle est extrêmement en colère et elle est prête à tout. Enfin, c'est-à-dire qu'elle recule devant rien. C'est-à-dire que s'il faut voler les clés d'un hôpital, s'il faut passer par la fenêtre, s'il faut.
Se blesser pour se faire soigner par un meilleur ami d'Oriane.
Non, mais incroyable. Cette séquence, qu'est-ce que c'était drôle. Non, il y a plein de passages très très drôles. Elle en est très très drôle en fait dans son aveuglement monomaniaque de retrouver l'homme, quoi.
Mais ça, c'est le mélange du talent d'écriture justement et puis de la comédienne aussi. Ouais. C'est de savoir incarner un personnage auquel on s'attache et puis en même temps, effectivement, qui amène de la drôlerie dans quelque chose qui est quand même malgré tout dramatique, quoi.
Ouais, je sais, ils ont eu très peur quand j'ai dit que c'était une comédie, mais moi j'ai vu tout de suite un espèce de gros potentiel comique.
Ah oui, il y a un effet qui est pas mal du tout.
Tout le monde m'a regardé un peu bizarrement, en disant, oh, putain, je pense qu'on s'est trompé de casting. Mais il y avait ce côté-là, c'était une façon de traiter aussi des sujets graves. Voilà, je trouve qu'on est dans une, on est arrivé en 2022 à peu près tous exsangues et que je pense qu'on a tous besoin de se divertir. Voilà, je trouve que la série arrive à un bon moment où en fait c'est traité d'une telle façon, donc on traite quand même un sujet quelque part de société, enfin en tout cas un fait réel, mais avec beaucoup d'humour et de recul, et ça permet de moins se projeter, et c'est probablement moins anxiogène comme ça. Et comme on est quand même dans une société relativement anxiogène et anxieuse en ce moment, je trouve que ça fait du bien. Donc c'est vrai que ce côté enlevé, voilà, il y a une écriture qui est super d'Alice, où on est à la fois dans le rom-com, dans le thriller, un peu dans la comédie dramatique. C'est à la fois complètement juste dramatique aussi ce qui se passe, et tout ça se mélange hyper habilement. Et c'est vrai que chaque acteur a pris sa partition à bras le corps et de manière extrêmement définie. Les quatre filles sont extrêmement définies. Jonathan, il navigue là-dedans. Voilà, c'est vrai que nous, c'était, enfin bon, moi j'ai adoré ce tournage, hein, donc voilà, je suis pas partiale, mais c'était des mois, en tout cas pour moi, c'était un personnage vraiment très très chouette à créer.
Il a réussi à le rendre attachant malgré tout, hein, dans toutes les partitions qu'il joue, en vous arnaquant chacune. C'est ça qui est magique quand même, c'est qu'entre l'écriture et l'interprétation de Jonathan, on le disait la semaine dernière avec lui, il a réussi à le rendre malgré tout attachant. On arriverait presque à y croire, ou croire à sa rédemption à chacune de ses arnaques.
Ouais, c'est la sincérité de la maladie, ça.
C'est ça. Alors, Flore et Elodie disaient la semaine dernière que justement, elles avaient dévoré le scénario du début à la fin, elles n'avaient pas réussi à s'arrêter. Nous, spectateurs, c'est pareil, on a du mal à s'arrêter, c'est très addictif en fait, on a envie de dévorer les quatre épisodes d'un coup. Toi, comment tu as fait, Odile, quand tu as commencé à lire le scénario, tu as lu tout d'un coup, tu t'es arrêté un peu entre les deux, tu t'es dit quoi?
Bah moi déjà j'aimais le personnage, j'aimais l'histoire, je lisais, je suis, oh là là, j'adorais tellement jouer le rôle du mec. Mais oui, on a envie de savoir ce qui se passe, mais même à regarder, enfin c'est vrai qu'il y a une espèce d'émulation sur ce projet qui est vraiment voilà, qui est là depuis le début. Moi j'ai dit oui tout de suite, enfin j'ai lu, c'est il y a des fois je me pose des questions, je réfléchis, et là c'était jouissif, quoi. Effectivement, on le regarde, voilà, les échos sont les mêmes, moi c'est pareil, quoi. J'ai lu, je pense que j'ai lu d'une traite, je me souviens plus en vrai.
Tes projets, Odile, pour la suite?
Eh ben moi j'ai sorti mon livre, mon premier récit de voyage chez Michel Lafon, donc que je continue à promouvoir. Et puis il y a L'homme de nos vies, et puis Prométhée, une série fantastique pour TF1.
On a hâte de découvrir aussi. Le pitch me plaît beaucoup de cette série.
Ouais, ouais, c'est incroyable, hein. Faut que je le pitch.
Allez, vas-y, si tu veux.
Soyons fous, si, je suis mauvaise au pitch, mais celui-là, j'y arrive à peu près. C'est l'histoire d'une jeune femme qu'on retrouve nue, victime d'un accident, enfin, qui se fait percuter par une voiture dans la nuit et qui se relève sans aucune séquelle autre.
Ni égratignure,
aucune séquelle autre qu'une parfaite amnésie. Elle ne se rappelle que de son prénom, Prométhée. Donc, l'idée, c'est de savoir qui est-elle. Moi, je suis la psy chargée de m'assurer qu'elle ne simule pas son amnésie et de comprendre pourquoi donc elle serait amnésique.
J'ai hâte de découvrir ça, évidemment. Puis, ça sera l'occasion pour toi de revenir nous en parler, tiens.
Oui, avec plaisir.
Bon, on se dit à très vite. Merci beaucoup, Dil, d'avoir été avec nous. L'homme de nos vies, la suite, c'est demain, la suite et la fin sur M6.
Il n'est pas médecin. Il ment sur tout. Vous êtes pas folle.
Il n'y a plus aucune trace de lui. Il a vidé mon compte, mon ordinateur. Il a changé de numéro de téléphone. C'est pas tangible, ça, pour toi?
Mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques, avec tout ce qui s'est sur moi en plus.
Disons que si ça venait à savoir, on pourrait tout perdre. Alors pour ton bien, pour son bien, on me cherche pas.
Déjà, t'as porté plainte? Non, je veux pas porter plainte. Il a menacé de s'en prendre à mon père. Je peux pas.
Il paye tout avec la carte de ma mère. Billet d'avion, hôtel, resto, tout.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Zoom sur La fille au cœur de cochon, qui va être mise en ligne sur sash.tv, la plateforme de France Télévisions, avec des créations originales qui sont proposées régulièrement pour la plateforme. Et on a aujourd'hui justement David André, qui est le créateur, co-scénariste et réalisateur de La fille au cœur de cochon. Bonjour David.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et nos deux héros de l'histoire, Héloïse Vol, qui est avec nous. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Qui incarne Nina, et Victor Bonnel, qui incarne Hugo. Bonjour Victor.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, cette histoire, on va dire loufoque, dingue, drôle. Comment elle est venue? Comment ça s'est passé? Qui a eu l'idée?
Alors, je dois confesser que je suis l'auteur de cette idée un petit peu étrange, mais néanmoins pleine de sens, car nous voulions questionner la juste place de l'animal industriel, de l'animal d'élevage aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se positionne, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui dans la société? À la fois, on a besoin beaucoup, même si on n'est pas végétarien, on a envie de consommer, etc., de la viande, mais alors, de quelle façon on aimerait qu'elle soit produite, etc. Et en fait, ça s'incarne dans une jeune fille qui porte une valve porcine, une valve cardiaque de cochon, puisque ça se fait beaucoup, et que c'est l'animal le plus proche de l'être humain, biologiquement. Et donc elle va éprouver dans sa chair, personnellement, cette question, c'est-à-dire ce rapport à l'animal, ce rapport à un cochon d'élevage qui attire son attention et qu'elle a décidé de sauver de la mort.
Ça, c'était déjà, c'est une belle histoire. Héloïse, tu joues le rôle donc de cet ado cardiaque greffé avec cette valve. Comment t'as appréhendé cette histoire et ce rôle, toi, pour le coup?
Ben, moi, quand j'ai lu le scénario, j'étais très étonnée. Et non, mais en vrai, j'étais super excitée de faire ce tournage parce que je trouve que ça sortait un peu de ce qu'on voyait en termes de séries françaises et même pour le public jeune. J'avais rencontré David plusieurs fois et donc j'avais hâte de faire de tourner ça avec David et avec Victor.
Alors Victor, toi Hugo, clairement c'est un menteur, c'est un mytho.
Ouais, c'est un menteur pathologique, il le dit au tout début du film, il se présente comme ça. C'est un menteur pour plusieurs raisons. La principale, c'est qu'il rencontre une fille qui s'appelle Nina et il tombe raide dingue d'elle. Et du coup, pour lui parler et pour créer un lien avec elle, il va être prêt à inventer tout et n'importe quoi, et chaque mensonge va entraîner un nouveau mensonge et ça va être une escalade de mensonges, tout ça pour passer du temps avec elle.
Alors il y a du mytho, il y a de la romance, il y a de la valve porcine. Bref, on va s'amuser quand même aussi en regardant cette série, c'est aussi de la comédie quand même.
Ouais, c'est une façon d'attraper un sujet qui est très sérieux à travers un conte et qui est un road movie en 8 épisodes. Un road movie, donc quand même au deuxième épisode, ils enlèvent tous les deux un cochon d'élevage pour le sauver de la mort. Et Hugo, qui est un menteur pathologique, a inventé la destination finale. Donc ils savent pas où ils vont. Donc ils partent de Bretagne et la direction c'est les Pyrénées. Et donc il y a quand même 8 épisodes et c'est une première mondiale que les Américains nous envient, puisque c'est le premier road movie avec un cochon. Donc on a dressé des cochons pour le tournage. On leur a appris à faire 1000 choses, notamment de la voiture, aller d'un point à un autre, quand on crie action, etc., etc. Donc le cochon est un animal très proche de nous, très intelligent, très sensible. Il est quand même légèrement désordonné, hein. On a eu beaucoup de fous rires, mais aussi beaucoup d'émotions, parce que ça crée une ambiance extraordinaire. Et quelque part, on disait que la série questionne la juste place de l'animal aujourd'hui dans nos sociétés, quelle place juste on devrait lui donner, parce que les cochons sont quand même très maltraités. C'est des fermes où ils sont 10 000, ils voient jamais le jour, ils ont des arceaux métalliques, c'est des trucs, il y a des choses qui sont quand même, qui heurtent un peu notre sensibilité. Et les éleveurs sont des gens très bien, souvent ils font comme ils peuvent dans un système, etc. Donc la question de la juste place de l'animal, le cochon d'élevage l'a aussi pris dans le tournage, puisqu'il a pris sa place, et que souvent c'était lui qui décidait ce qu'on faisait ce jour-là, car il était dissipé.
Ça fait quoi de tourner avec un cochon?
C'est compliqué parce qu'il faut être très très concentré, parce que en fait c'est l'animal qui décide sur le moment de ce qu'il a envie de faire. Donc il faut être trois fois plus concentré que sur des scènes habituelles. Et puis il faut s'adapter en fait. On doit suivre ce que l'animal propose tout le temps. Et donc ouais, il y a des scènes qui étaient un peu compliquées où juste il devait marcher d'un point A à un point B et il passait par C, D, E, F et il faisait tout ce qu'il voulait. Et donc il fallait tout le temps être hyper focus et être à l'écoute de ce que en fait l'animal propose dans une scène et arriver à suivre ce qu'il faisait.
Toi, Victor.
Et puis ouais, pour ajouter aussi, le cochon est extrêmement dissipé, mais il y a aussi, ils ont été entraînés d'abord avec des éleveurs et des gens qui ont l'habitude de travailler avec des animaux pour le cinéma, et du coup ils ont fait un travail tout au long de la préparation du tournage, et nous on les a rencontrés vachement en amont, et du coup on a beaucoup travaillé, et on a répété avec eux les scènes, on leur a donné le biberon quand ils étaient tout petits, et du coup il y a un lien en vrai qui s'est créé, et du coup pendant que ça tournait, nous on était les garants aussi de la sécurité et du bon fonctionnement de l'animal, et ça c'est hyper hyper jouissif comme sensation de dire que c'est un vrai partenaire de jeu, et du coup lui aussi il a ses propositions et il va faire des choses qui ne sont pas forcément prévues, et nous on doit s'adapter, et ça ça nous ramène au présent tout le temps, et c'est hyper agréable.
Voilà, du coup ils ont pas fait de barbecue tout l'été 2022 du coup à cause de toi David.
Voilà. Alors la petite histoire dans l'histoire, c'est que ces cochons qui ont été donc élevés au biberon par les deux comédiens sont sortis d'un élevage au début, et donc ils ont été sauvés du jambon, puisque à la fin du tournage, il y en a deux maintenant qui habitent Oloron, près de
Laurent-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques.
Laurent-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques qui ont été voilà, qui vivent, ils ont tous leurs points de retraite, donc ils sont à la retraite et ils vont vivre tranquillement là-bas. Et trois autres qui sont retournés en Normandie et pareil, il est hors de question, donc ils vivront une belle fin. Donc on a en plus fait quelque chose de bien dans nos vies. On a sauvé 5 cochons du jambon et ça, c'est beau.
Génial. Alors bien accompagné aussi Eric Berger. Alors les fans de Tanguy évidemment vont le reconnaître. Eric Berger, Julia Fort aussi. Il y a un joli casting entre vous. 8 fois 30 minutes. J'ai pas vu la fin. Est-ce que aujourd'hui on peut imaginer une suite? Est-ce que c'est ouvert? Est-ce que vous avez déjà envie de faire une deuxième saison? Ou est-ce que c'est bouclé? C'est vraiment fait pour être une mini-série qui s'arrête au bout de 8 fois 30 minutes.
Donc effectivement, Eric Berger, Julia Fort, il y a aussi Catherine Ringer, Erika Mitsuko, qui fait une apparition, la grande reine Catherine, à la fin de la série. C'est une série qui a été conçue pour vivre de façon bouclée pour l'instant. Après, il y a tout à fait des possibilités à l'avenir de suivre...
Écoute, hein.
Suivre les aventures de Nina et de Hugo. Voilà, pour l'instant, on
rien n'est fermé.
On attend déjà de voir comment elle va être reçue et puis on verra après.
Et bien on va découvrir en attendant la fille au cœur de cochon. Ça arrive sur France TV slash. C'est la série à découvrir. Vous allez pouvoir découvrir 8 épisodes d'un coup. Merci à tous les trois d'être venus nous en parler. En tout cas, merci David, merci Victor et merci Louise. À bientôt.
Elle est dresseuse ou ta copine? Comment elle a fait ça?
L'enfant.
Vous connaissez l'histoire du mytho qui criait tout le temps au loup?
C'est elle, Nina.
Le jour où il a dit la vérité, plus personne n'a voulu le croire. J'aurais jamais pensé que ça m'arriverait.
C'est quoi cette odeur?
C'est parce que mes parents, ils ont une porcherie.
Pourquoi elle a un trémousse sur le dos, elle?
Ça, c'est parce qu'elle doit partir à l'abattoir.
Faut pas qu'elle meure, faut la sortir d'ici.
Et encore moins à cause d'une histoire d'amour.
Direction le Festival du film de société de Royan dans un instant. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. La télé, le talk show radio. Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Direction Royan pour terminer cette émission avec le festival du film de société qui ouvre ses portes aujourd'hui même avec le jour d'avant. Aujourd'hui, c'est 3 avant-premières qui sont donc sur le festival du film de société avec une journée consacrée à la télé. Vous pourrez y découvrir des fictions notamment qui ont été projetées au festival de la fiction télé, qui ont été primées. Toulouse-Lautrec, La vie devant toi ou encore La vie, l'amour tout de suite tournée à Royan sont au programme, notamment de cette soirée avec à la réalisation le président du festival Nicolas Cuche. Mais juste avant, eh bien c'est le directeur du festival du film de société Guillaume Mousset qui est avec nous en ligne. Bonjour Guillaume.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous Guillaume. Donc ce soir en ouverture en gros de cette édition avec ce jour d'avant, c'est un film tourné à Royan, c'est un véritable événement et surtout qu'en plus c'est un peu la carte blanche du président du festival puisque c'est lui qui a réalisé cette fiction à Royan l'année dernière. La petite histoire c'est qu'il l'a réalisé alors que tu étais en pleine première édition du festival et cette année Nicolas Cuche est le président, la boucle est bouclée.
Tout à fait, on est très content d'avoir Nicolas Cuche et qu'il ait accepté ce rôle de président. Et en plus, il est vraiment présent non-stop, dès le lundi, la première séance, jusqu'à la séance de clôture. Il sera là pour les spectateurs et pour notre plus grand plaisir.
Alors, ce qui est assez incroyable en plus, c'est que Nicolas a une expérience dans le film de société, mais pas que dans la comédie. C'est un réalisateur absolument hors pair et vraiment un très joli coup. Il va être très bien accompagné avec Fleur Bonaventura, comédienne que vous voyez en ce moment dans L'Homme de nos vies d'ailleurs sur M6, Saïda Jawad, Geoffrey Coué, Michel Crémades ou encore la scénariste Brigitte Bémol qui scénarise en ce moment la série Je te promets. Il y a vraiment un très beau jury professionnel, il y a un jury presse, il y a une compétition assez incroyable. On sent que cette deuxième édition, c'est l'édition de l'élan, c'est l'édition du grand départ. C'est parti, on rentre dans la cour des grands là.
C'est ça, donc cette deuxième édition, effectivement, le but c'était aussi de faire mieux que la première année. Donc là, c'est franchement bien parti. Pareil, au niveau des préventes, on voit qu'il y a bien plus d'engouement que l'année dernière, à la même époque. Donc ça s'annonce plutôt fort.
Et demain soir, ça va être l'événement, demain mardi, pour l'ouverture de la partie cinéma. Ça va être assez incroyable, puisque là, je crois que tu as une invitée d'honneur exceptionnelle qui nous attend à Royan.
Complètement. Brigitte Fossé nous fera l'honneur de venir chez nous et donc on la remerciera, on lui remettra un prix d'honneur. Et elle sera également en échange avec le public le mercredi matin à 10h, on repassera la Boom 2 et elle interviendra avec les spectateurs pour débattre avec eux.
Et on aura l'occasion, évidemment, de pouvoir animer cette séance. Donc, merci déjà aussi de ta confiance. On a eu l'occasion de rencontrer Brigitte Fossé dans des festivals de Patrick Georges, justement, sur Marignane ou encore le Cap d'Agde. Et de pouvoir vous faire rentrer en relation. Et donc, du coup, ben aujourd'hui, ça y est, elle vient à Royan. Et ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'elle vous fait, là.
Tout à fait. On est très content de la recevoir et on espère qu'elle reviendra les années suivantes.
Eh oui, pour être dans le jury, on ne sait pas. Alors, des films en compétition, on va parler un petit peu de cette compétition, Guillaume. Il y a de très très jolis films, dont certains qui ont été projetés à Angoulême ou à Sarlat, et puis des films qui n'ont jamais été encore projetés en festival. Mais en tout cas, c'est vraiment une compétition très prometteuse, hein.
Oui, donc on a 9 films en compétition, effectivement, donc c'est que des avant-premières, donc certaines en exclusivité, d'autres qui ont déjà été présentées en festival mais qui sont en exclusivité dans tous les cas sur le territoire parce que ces films n'ont jamais été montrés. C'était aussi un peu l'intérêt de ce festival.
Alors demain soir, le film d'ouverture, c'est Maestro.
Tout à fait, Maestro, effectivement. Donc pendant la cérémonie d'ouverture, on aura un concert de musique classique. On va être dans la thématique du film du soir et on aura le plaisir d'accueillir Bruno Schisch, le réalisateur de Maestro, ainsi que Anne Gravoin, qui était la directrice de la musique.
Il va y avoir du beau monde pendant ce festival. Est-ce que tu peux nous donner quelques noms de personnalités qui vont être là, justement, pour pouvoir défendre leurs films, notamment?
Voilà, donc outre les personnes que tu as déjà indiquées, on aura Guillaume de Tonquédec qui va venir pour Arrête avec tes mensonges et il sera accompagné du réalisateur Olivier Payon et de Philippe Besson, l'écrivain. Nous aurons sur Sage Homme l'acteur Melvin Boomer qui sera présent. Le lendemain, le vendredi, sur C'est mon homme, nous aurons Karine Leclou, qu'on voyait qui était l'un des 3 flics dans Bac Nord. Sur la syndicaliste et sur la cérémonie clôture, alors c'est pas un acteur, c'est Fabrice Drouel qui est très connu parce qu'il fait les émissions sur France Inter Affaires Sensibles et il a une émission de télé tous les mois. Donc on a un super casting là pour cette année qui monte vraiment en puissance par rapport à l'année dernière.
Eh bien, en tout cas, on va se donner rendez-vous donc dès demain. Moi, je pars vous rejoindre à Royan pour cette grande soirée La Vie, l'Amour, tout de suite. Et le film de Nicolas Cuchet. On va se retrouver évidemment tout au long de la semaine sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook. Chut, on écoute la télé pour vous faire vivre ce festival à Royan comme si vous y étiez. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous. Et toutes les informations, évidemment, sur la page Facebook du Festival du Film de Société. Vous les retrouverez avec le programme complet pour réserver vos places. Dépêchez-vous. Et il n'y en aura pas pour tout le monde. Je crois que ça va être le Euphorie à Royan cette semaine. Merci beaucoup Guillaume.
Merci.
Et à très bientôt.
Chut, on écoute la télé, spécial festival.
Et on va terminer donc avec le président du jury de cette 2e édition du Festival du Film de Société de Royan, Nicolas Cuchet, qui est en ligne avec nous. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
On va aller te retrouver ce soir, Nicolas, pour cette belle soirée où tu vas pouvoir présenter justement ton film pour M6 qui a été tourné à Royan, La Vie, l'Amour, tout de suite. Et puis tout au long de la semaine, tu as accepté de rester en tout cas à Royan pour pouvoir présider le jury de cette 2e édition qui va être riche en événements. Ça va être chouette, c'est une belle expérience qui t'attend là, je crois.
Moi, je suis particulièrement content de venir présenter mon film à Royan puisque je l'ai tourné à Royan. Et donc c'est une occasion de le présenter là où je l'ai tourné et j'ai adoré tourner dans cette ville, dans cette région. Je suis particulièrement content et fier de ce film qui j'espère vous plaira, qui est sensible et porté par de formidables comédiens. Et puis j'ai hâte de découvrir le programme des films en compétition qui m'a l'air particulièrement excitant.
Alors Nicolas, président, dis donc, ça rappelle des souvenirs presque. Hein.
Ouais.
Hein ouais. Bon, en tout cas, je crois que tu vas être très très bien accompagné avec Flore Bonaventura qu'on voit en ce moment dans L'Homme de nos vies sur M6. Tu vas être accompagné par Saïda Jawad. Il va y avoir Michel Cremades également. Il y a vraiment du beau monde autour de toi. Scénariste Brigitte Bémol qui a scénarisé Je te promets. Il y a vraiment du beau monde qui va être autour de toi. Tu vas être un président comment? Raconte-nous. Tu vas essayer de gérer quand même un petit peu tes membres. Tu vas essayer un peu de... Comment tu vas gérer la chose?
Je vais être tyrannique. Non, non.
J'espère bien.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non. Je vais être collégial, à l'écoute des amis. Non, mais ce qui est intéressant, c'est quand les films provoquent des débats, en fait. C'est ça qui est bien.
C'est clair.
Pour réfléchir, pour débattre, que les opinions sont pas forcément les mêmes, un peu contradictoires. Donc, moi, c'est ça que j'attends. J'attends de la conviction, j'attends des points de vue forts, et j'attends voilà, que chacun défende ses convictions et que ça crée une vitalité de débat. C'est ça que j'attends des films, en fait. Et c'est ça que j'attends en tant que président entre nous.
Je crois que tu vas être servi vu la belle sélection qui t'attend.
Oui, j'ai l'impression. Hein. Franchement, j'ai regardé la sélection. J'ai pas vu les films, mais je suis très très impatient et très curieux de les découvrir. Je pense que ça va être très enrichissant.
Bon, en tout cas, tu vas te régaler. Moi, je peux te dire, j'en ai vu quelques-uns. Je ne dirai rien, mais je peux te dire, tu vas te régaler. J'en suis sûr.
Ouais.
Merci beaucoup,
ouais.
Nicolas. On te rejoint du côté de Royan pour passer la soirée avec toi. On va se faire des lives tout au long de la semaine sur le festival. On fera des petits points réguliers. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour terminer cette émission, en tout cas.
Eh ben, à très vite et merci.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on parlera de la sortie du film Les Pires de Roman Guéré et Lisa Coca. Lisa Coca qui sera notre invitée, accompagnée de son actrice principale. Nous aurons le plaisir de parler également de La Très Grande Évasion, un documentaire qui sort au cinéma de Yannick Kergoat qui sera avec nous. On parlera aussi de la sortie du film Nos Frangins. Rachid Bouchareb, Raphaël Personnage et Samir Ghesmi seront nos invités exceptionnels.
Attitude.
Et n'oubliez pas que Chut, on écoute la télé sur Attitude, c'est aussi la quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07. Vous pouvez aussi retrouver le podcast de cette émission dès ce soir, 20h sur notre site internet onécoutelatélé.com et nous suivre tout au long de la semaine sur nos Facebook, Instagram et applications pour iPhone et Android. Chut, on écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée demain soir à 19h. Alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle après-midi à l'écoute de nos programmes sur Attitude. À tout à l'heure. 16h07 pour la dernière quotidienne de la journée.
Chut, on écoute la télé avec France Pare-Brise Cognac. Intervention sur tout type de vitrage et sur tout véhicule. France Pare-Brise est agréé toutes assurances et vous propose le prêt d'un véhicule en cas de besoin. Alors n'hésitez plus. Prenez rendez-vous chez France Pare-Brise, 79 avenue de Saintes à Cognac.
Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorants, sans conservateurs et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.